Bonjour à tous. Alors, dimanche dernier, qui se rappelle du texte qui a été partagé ? J'aurais pu le faire quand même. J'avais choisi ce chapitre de Romains 12, et c'est David qui l'a traité. Et donc, il m'a suggéré, mais prends 13. Alors, j'ai regardé Romains 13, et Romains 13 fait un peu écho à 1 Corinthiens 13. Il s'agit de quoi dans 1 Corinthiens 13 ? L'amour. Alors, il est question de l'amour, c'est pas un hymne à l'amour dans Romains 13, mais je vous propose de lire les versets 8 à 10 de Romains 13. On continuera pour le reste du chapitre. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut y encore y avoir comme commandement, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc il est question d'un amour tout à fait pratique. Et ce passage, j'aimerais le dire d'emblée, sur l'amour ne concerne pas seulement l'amour des frères et sœurs en Christ. Le prochain, ce n'est pas seulement ceux qui sont autour de nous à l'Église. Bien sûr, l'amour fraternel est un puissant témoignage pour le monde qui nous observe. Vous voyez comme ils s'aiment, ça c'est dans les Actes, hein, quand ils ont vu l'Église se former et tous voyaient l'amour qui régnait au milieu de l'Église. La tentation d'aimer seulement ceux qui ont la même foi et espérance que nous est grande. C'est quand même plus simple. Parfois, les relations peuvent aussi être compliquées, mais c'est plus simple d'aimer ceux qui pensent comme nous, ceux qui lisent la Bible comme nous. Mais ce n'est pas le sujet de ce passage. Le problème d'aimer que ceux qui nous aiment nous ramène à la parabole du Samaritain, du bon Samaritain. Pour le sacrificateur, le Lévite de la parabole, l'homme blessé par les brigands n'était qu'un inconnu quelconque, sans signe religieux distinctif. Donc, ou apparent, c'est dans Luc 10, pour ceux qui veulent se noter, les versets 25 à 37. Hein, donc, pourquoi ils sont passés outre ? Ils ne nous ressemblent pas. Ce n'est pas l'un des nôtres. Donc, on a tellement de choses, de personnes à s'occuper, donc celui-là, laissons-le. Dans ce passage, il est dit, ne devez rien à personne. Ma Bible renvoie à Deutéronome 24, les versets 14 et 15. Ne rien devoir, c'est-à-dire, ben, si on doit quelque chose, ben, il faut lui donner. Tu n'opprimeras pas le mercenaire, l'ouvrier, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Ne devez rien à personne, c'est-à-dire ayez le même traitement pour tout le monde. Par contre, l'amour réciproque, aimez-vous les uns les autres, n'est exigé que des enfants de Dieu. Et nous, on n'a pas exigé des autres, mais il nous est exigé d'aimer les autres. On ne peut pas demander ça au monde. Ils ne comprennent pas. Il y a parmi nos contemporains un croyant, des gens qui aiment leur prochain, ça existe, qui encouragent, donnent, se soucient de leur prochain, ça existe. Ils sont rares, mais ils existent. Les recommandations de Paul sont des directives pour les croyants. Aimer les autres, l'autre, c'est accomplir la loi. Qui est l'autre? Alors, l'autre à côté, celui avec qui je vis, celui que je côtoie, une chose est claire, ça ne doit pas être un concurrent. Dans la vie, souvent, l'autre, on le prend pour un concurrent. Ça commence à l'école et puis ça continue. Dans les métiers, dans les entreprises, n'importe. Dans tous les domaines, l'autre, ça peut sembler être un concurrent. Et ce n'est pas un concurrent à éliminer. Hein ? Il y a parfois des gens qui disent, ben celui-là, je le mets de côté et puis ça ira mieux. Souvent, nous percevons l'autre comme un danger pour nous, pour nos acquis, pour notre confort. Les commandements cités au verset 9, on va relire ce verset. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces commandements parlent d'un combat contre notre propre nature, pas contre l'autre. Tu ne. Hein, chaque fois, tu ne convoiteras, tu ne tueras. C'est moi qui ne dois pas faire. Je ne peux pas influer sur l'autre, mais c'est à moi de respecter cela. Pratiquer l'amour, ce n'est pas une question de sentiment. On se sent tellement bien avec tel ou tel, et le lendemain c'est différent. Il y a des consignes dans ce passage. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Et ça, c'est l'amour pratique. Hein ? Tu ne convoiteras pas. Et ainsi de suite. C'est une question de volonté, non de sentiment, une question d'obéissance. Aimer, c'est un ordre de Dieu. Tel ou tel, je le laisse de côté, je vais plutôt aimer un autre, les frères et sœurs. Hein. C'est pas ça. Aimer, c'est servir, sans attendre de retour, sans calcul. Ah, c'est difficile. Quand Jésus parle de sa gloire et du jugement des nations, dans Matthieu 25, 31 à 46, c'est encore un passage que nous n'allons pas lire, c'est là où il est dit, « Ceux qui prendront possession du royaume, qui sont appelés bénis du Père, sont surpris. Quand avons-nous vu avoir faim, soif, étranger, nu, malade, en prison ?» C'est des personnes, c'est des croyants, qui ont simplement fait ce qu'ils devaient faire. Ils sont surpris d'entendre ça. Ils n'étaient même pas conscients, ils n'ont pas fait ça par calcul. Ils l'ont fait de cœur. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Les versets 39 à 40 de Matthieu 25, pour ceux qui veulent noter la référence. C'est bien l'inverse de ce que propose la nature humaine. Un collègue à moi disait toujours, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein, ça, c'est une attitude. Il n'y a pas de mal, et en général, il en parlait quand il parlait de tromper sa femme avec quelqu'un qui lui plaît. Donc, il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais il y a d'autres domaines dans la vie. Ce n'est que de l'égoïsme. Ça n'a rien à voir avec de l'amour. Alors, ici les questions de convoiter, prendre la femme d'un autre, du prochain. Vous connaissez l'histoire de David avec Bathsheba. Hein ? Celui qui a payé le prix fort, c'est premièrement Uri. On voulait cacher ce crime. Et Uri a dû payer de sa vie. La séduction est un jeu dangereux. C'est un jeu interdit. Mais qu'est-ce qu'on prône aujourd'hui ? Tuer le prochain, tu ne tueras pas ton prochain, c'est penser se débarrasser définitivement de celui qui est un danger. Un obstacle pour mon avenir, pour ma progression, pour la croissance de mes biens peut-être. Voler et dérober, c'est s'approprier ce qui n'est pas à moi. Simplement. Il y a tellement d'opportunités. Convoiter, c'est avoir envie, être jaloux. Là, je vais vous lire, on va lire ensemble un passage dans 1 Roi 21, les versets 1 à 16, c'est un peu long, mais il y avait convoitise. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jisréel avait une vigne à Jisréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai de la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jisréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jisréel, je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à sa place. » Et il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jisréel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Et elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. « Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, mettez en face de lui deux hommes méchants qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors et lapidez-le pour qu'il meure. » Les gens de la ville de Naboth, les anciens, les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Et ils le menèrent hors de la ville et le lapidèrent. Et il mourut. Ils envoyèrent dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé, il est mort. » Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé, qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jisréel qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jisréel afin d'en prendre possession. Quelle histoire pour quelqu'un qui est jaloux, qui a envie de quelque chose, comme un gamin. Et vous voyez tout ce qui a suivi. Les habitants de Jisréel n'ont pas osé contrer tout ce plan. Naboth est mort à cause de ce roi qui était un gamin de ce côté-là. Il ne mangea plus, il a détourné, il s'est couché, il a détourné son regard et son épouse lui a rendu sa justice. Aimer son prochain, c'est renoncer à satisfaire mes envies qui sont au détriment du prochain. Le Seigneur a fixé un cadre au sein duquel nous pouvons jouir d'une vie épanouie, qui ne se construit pas au détriment de l'autre. Naboth était assez riche, il n'avait pas besoin de ça. Mais il voulait impérativement cette vigne. Ça faisait encore un petit quelque chose à côté de son palais. Un petit plus, c'est tout. Les tentations ne sont épargnées à aucun d'entre nous. Et le tentateur est encore à l'œuvre, comme au temps de Jésus. Caïn est l'exemple de celui qui, par jalousie, succombe à la tentation. Et là aussi, c'est juste quelques versets que nous allons lire dans Genèse 4, les versets 3 à 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers lui. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas de sacrifice de Caïn, mais son cœur, ce n'est pas que Dieu préférait l'un à l'autre, mais son cœur n'était pas pur, donc comme il présentait les choses à Dieu. Et Dieu a refusé, il a dit, écoute, je ne peux pas accepter ça. Par contre, quand Caïn a vu que son frère était béni, que Dieu acceptait le sacrifice, par jalousie, il a commencé à s'irriter. Et Dieu lui dit, le péché se couche à sa porte, ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Il avait l'occasion, mais il s'est laissé aller. Et combien de fois dans la vie, et nous sommes tous de la même nature, au lieu de résister, nous nous laissons aller. Pas jusqu'au crime, j'espère. Au lieu de porter son attention sur Dieu, il succombe à la haine et devient le premier meurtrier de l'histoire humaine. Caïn. Pour aimer vraiment, Christ doit devenir de plus en plus important pour chacun d'entre nous. Quand Christ a la place, quand il y a des choix à faire, on se rapproche de lui. Quand l'ennemi veut nous tenter, lui, quand il a été tenté, il a dit, la parole dit, mon Père dit, il était en contact avec son Père. Et nous devons avoir cette intimité avec Christ. Et chaque fois que nous semblons ou que nous pensons chuter, crier à lui et dire « Au secours !» Nous n'avons pas les forces en nous. Seule sa présence peut nous garder. Seule sa présence, sa proximité nous permet de ne pas succomber, de triompher. Aimer le prochain, c'est vouloir, hein, vraiment vouloir chercher son bien. C'est renoncer à soi-même. Nous allons lire la suite du passage de Romains 13, les versets 11 à 14. Donc il était question de l'amour. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin, du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Là, Paul parle à l'Église. Là, il ne parle pas des autres. Il parle à l'Église. Il nous donne une motivation importante pour pratiquer l'amour. Vous savez en quel temps nous sommes. Alors, peut-être, mais rien n'a changé depuis ce temps-là. Nous sommes une génération qui voit des choses se passer qui étaient inimaginables il y a quelques années, quelques temps, que ce soit des lois qu'on vote, que ce soit la géopolitique, que ce soit avec Israël, que ce soit cette guerre aux portes de l'Europe. Qui aurait pensé à cela ? Le jour est proche. Vous savez en quel temps nous sommes. Hein ? Il l'a écrit à l'époque, mais je crois que cette parole est vraiment d'actualité pour nous. Le salut est plus proche que jamais. Ce n'est pas le moment de relâcher. Parfois, on se dit, bon, on va laisser passer. Le discours général dans notre monde veut nous assoupir. Hein ? Donc, le train-train et les médias, et on veut nous endormir. Oh non, 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 ça a toujours été comme ça. Il faut voir ce que dit la parole. Ce n'est pas les médias qui peuvent nous instruire beaucoup, en tout cas nous édifier. Soit nous sommes installés dans notre train-train quotidien et nous attendons que les choses se passent, soit nous adoptons les pratiques et les mœurs de notre temps. Ça, c'est l'autre danger. Le jour approche, ouvrons les yeux. Nos contemporains errent comme des brebis sans berger. Et dans notre pays, c'est aussi le cas. Chacun cherche sa voie. Il y a quelques responsables qui soi-disant une solution, mais on erre comme des brebis sans berger parce qu'on a rejeté le berger suprême. Les loups hurlent et se rassemblent. Les lois de nos sociétés sont dirigées par et vers les ténèbres, au lieu de consulter le livre. Et même les chrétiens ont de la peine à consulter le livre, la Bible. Combien de temps passons-nous là où est le chemin, là où est l'avenir? Les croyants, revêtus des armes, de la lumière dont il est question ici, sont à l'image de Gédéon. Vous vous souvenez de Gédéon avec 300 hommes ? Hein ? Ils n'avaient pas d'épée. Ils avaient quoi comme arme ? Des cruches vides, un flambeau à l'intérieur et des trompettes. Hein ? C'est dans Juge 7. Les cruches vides, c'est toi et moi. On n'est pas plus que ça. On est des cruches vides. Des vases d'argile, des vases de terre. Humainement, nous sommes de la poussière. Et quelle importance nous nous donnons. Mais si nous contenons le feu de Dieu, cela change tout. Quand le Saint-Esprit nous habite, c'est là que ça transforme notre impact sur la société. Les trompettes, c'est la louange, la proclamation de la toute-puissance du salut. Ça, c'est notre mission. Annoncer Christ tant qu'on peut. Le feu de Dieu, c'est la seule lumière du monde qu'il y a. Il n'y en a pas d'autre. Dimanche, je parlais avec un cousin qui va souvent en Inde, il est bouddhiste. Et à un moment, il dit, « Oui, mais la Bible, elle est écrite de main d'homme. » Alors je lui ai dit, « Pour moi, c'est la parole de Dieu. » Et quand Dieu donne sa parole, ça l'engage, et moi je crois, parce qu'il est digne de confiance. Si Dieu donne sa parole à quelqu'un, c'est qu'elle va s'accomplir. Et je lui ai dit, il y avait sa compagne avec, je lui ai dit, « Et la religion, ça ne mène nulle part. » Il n'y a que la miséricorde, la corde qui nous tire de la misère, il n'y en a pas une autre. Et ça, c'est Christ qui est venu sur terre. Ça, c'est le message que nous avons à annoncer. Ça, c'est le feu que nous avons à propager ou la trompette que nous devons faire résonner. Ça, c'est notre mission. Nos cruches sont-elles vides? Ou nos pensées sont-elles polluées constamment par les propositions séductrices des ténèbres? Il est question ici, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, parce que la nuit avance, la nuit est avancée. Vous savez, il y a un secteur d'activité qui ne sent pas la crise depuis des décennies, c'est le monde de la nuit. Hein? Le monde de la nuit, on a tous entendu parler de ça, hein? La discothèque et tout ce qui va avec. Ça, c'est là où le monde s'amuse. Mais ce n'est pas absolument l'endroit où l'enfant de Dieu est appelé à se rendre pour s'amuser. Les temples d'Éros sont bien plus fréquentés que les églises. Chez nous, à Kirvillers, ça ne désemplit pas. On a ce temple de voilà, et ça ne désemplit pas. Ici, on a de la peine à remplir notre salle, n'est-ce pas? Là-bas, ben, y a des listes. C'est révélateur, mais ça mène vers les ténèbres. Les distractions osées sont attrayantes, mais cela nous assoupit et notre cœur devient insensible à la voix du Saint-Esprit. Et nous sommes aussi sollicités, nous sommes aussi soumis à certaines de ces voix. Paul nous suggère de marcher comme en plein jour. Là, il n'y a rien à cacher. En plein jour, ben, à la face de nos contemporains, d'être ce que nous sommes. Ah, nous sommes parfois craintifs. Que tout ce qui est pur et saint soit l'objet de vos pensées, dit-il dans Philippiens 4, 8. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Et là, nous sommes prêts aussi à témoigner. Là, nous sommes équipés. Se dépouiller, comme il est dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Se dépouiller, c'est déposer la vieille peau. Hein, ça, c'est textuellement, ça, c'est le dictionnaire qui le dit. Hein, déposer la vieille peau, le serpent, il se dépouille, il dépose sa vieille peau. Et l'image est belle, hein, donc la vieille vie, déposer les œuvres des ténèbres, c'est aussi l'image du baptême. Hein. Immerger, mourir et renaître. Dépouiller, c'est aussi ce qu'on va vivre la semaine prochaine, c'est ouvrir les bulletins pour lire le contenu et compter le résultat. Hein. Ça aussi, c'est se dépouiller. Spirituellement, c'est présenter nos vies aux yeux du Père et lui laisser ce qui ne lui convient pas, l'abandonner, déposer ce qui ne convient pas, pour ne garder que ce qui est utile pour son service. Revêtir le Seigneur Jésus-Christ à l'image du baptême, c'est laver par le sang de Jésus, c'est être habité par Jésus-Christ. Quand quelqu'un nous regarde, qu'il puisse considérer, constater, Christ est là. C'est un porteur de Christ, un Christophère, comme disent les Anglais. Dans un monde où les sens séducteurs sont exacerbés, où se prouver complet est un objectif essentiel pour beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes, ben, essayer de séduire, ça me met en valeur. La parole nous appelle à la sobriété, la simplicité. Nous n'avons pas besoin de jouer les séducteurs. Nous pouvons aussi essayer de séduire quelqu'un pour Christ, mais ce n'est pas cette attitude qui est attendue. Aspirer à entrer de plus en plus dans le plan de vie de Jésus, ça nous transforme. Ça seul peut nous pousser à aimer nos contemporains, au point de confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Il était question au début d'aimer notre prochain. Ben, le vrai amour, c'est lui apporter la vie. Tout le reste, c'est des pansements sur ses plaies, il le faut. Mais apporter la vie, proposer la vie, on ne peut pas le forcer. Mais apporter la vie, ça, c'est vraiment aimer le prochain. Celui qui vient bientôt, le jour approche, va avoir le dernier mot, le mot de la fin. Et là, j'aimerais juste lire dans 1 Jean 4, les versets 12 à 16. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ceux qui nous a donné son esprit, de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et je crois que ça, c'est important de savoir que Dieu demeure en nous et qu'il nous relève quand nous chutons. Ce passage sur l'amour veut nous édifier, pas nous enfoncer, mais il est important que nous soyons conscients que c'est quelque chose de volontaire, que ce n'est pas juste nos bons sentiments qui sont mis à l'épreuve ici. Amen. Je vous propose de prier. Père, tu vois le chemin sur lequel chacun d'entre nous marche et nous te demandons juste la sérénité de marcher avec toi, de marcher aux côtés de Jésus, d'être rempli de l'Esprit Saint. Nous avons tellement besoin de cela. Nous avons besoin de ta grâce, chacun d'entre nous, Seigneur, et nous avons besoin d'être réveillés, comme il est dit, de considérer aussi où nous en sommes avec toi, où en est notre monde, et de voir aussi l'urgence, Seigneur, de proclamer Jésus-Christ, d'être des porteurs de ta flamme, d'être vraiment vidés de ce qui n'est pas à toi, pour être des récipients de Dieu. Amen.